Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Cioran est ressuscité et il a de l'humour. Il s'appelle désormais Gaspard Proust. Et cet humour amoral, sans filtre, infusé d'une bonne dose de désenchantement, pulvérise tous les codes avec une efficacité meurtrière. J'ai évoqué Cioran, mais j'aurais pu dire Philippe Muret ou Michel Houellebecq, car comme eux, Gaspard Proust fustige les vanités tragiques de cette société. Prochainement, c'est en tant que comédien que vous serez sur la scène du Théâtre Antoine à Paris pour la nouvelle pièce du très subversif, lui aussi, Sébastien Thierry. Demain, la revanche, avec Brigitte Catillon et Jean Barnet, une comédie noire, comme vous auriez pu l'écrire. Bonjour, Gaspard.
Bonjour.
Gaspard Proust, vous êtes né misanthrope, en colère ou juste déçu?
En colère, je pense. En colère et... Oui, je peux. Non, mais vous avez fait un tel... Une telle bio, là, je ne pourrais que détruire tout ce que vous venez de dire. Je
veux
dire,
je ne serais pas l'auteur.
Il cite Philippe Muret, Houellebecq, Cioran, enfin voilà quoi. Né en colère, oui, sans doute, oui. Mais la vie, c'est fait pour ça. C'est pour régler des comptes et avancer. Enfin, régler des comptes d'abord avec soi-même et puis.
Donc, par exemple,
redémarrons. Allez, redémarrons.
J'imagine que vous devez trouver suspect les gens joyeux comme les gens heureux d'ailleurs. Non.
Non, moi j'aime bien être, mais je suis pas si noir que ça, vous savez. Mais moi, ce qui me fascine, c'est pas les gens heureux ou malheureux, c'est les gens qui ont confiance. Ces gens qui ont confiance dans la vie et qui sont, et j'en connais certains, pour l'archétype, Laurent Ruquier beaucoup, c'est un type qui est tout le temps content, qui est positif, mais pas comme un mantra que certains se récitent, hein, il faut que je sois bien, il faut que je souris, mais vraiment d'une manière naturelle, qui accueille la vie, qui la prenne avec ce qu'elle leur donne et qui en font toujours quelque chose de chouette et de léger. Donc, ça, oui, j'aimerais beaucoup, ça, c'est pas forcément mon caractère, j'ai plutôt un caractère, on va dire, pour aller vite, angoissé, introverti.
Si ça va mieux. C'est ce que j'ai cru comprendre, c'est pour ça que j'ai cité à l'instant Cioran, parce qu'il y a quand même une bonne dose de désenchantement de votre cynisme, et puis vous savez que vous ne changerez pas la société. Mais alors, Gaspard Proust, qu'est-ce qui trouve grâce à vos yeux? Qu'est-ce qui vous console, par exemple?
Il y a plein de choses qui me consolent, des amis, parfois même j'arrive à le faire tout seul, la musique, la nature,
grande
consolation, et puis des choses... Plus spirituel, on va dire, dans lequel on va pas rentrer, mais c'est aussi une dimension.
Oui. Attendez, vous dites des choses plus spirituelles dans lesquelles on va pas rentrer, mais vous avez un jour confié à un journaliste, je suis un moine raté.
J'ai toujours eu une sorte de fascination. Oui, parce que c'est. On arrive à poil, on part à poil, et donc ceux qui arrivent à vivre également comme ça, dans une espèce d'austérité, de don absolu de ce qu'ils sont, ou que ce soit pour les autres, ou de ces gens qui sont toujours en rapport avec une certaine verticalité. Oui, moi ça me fascine. Et moi, très longtemps, j'étais une espèce de d'athée déçu, quoi. C'est dire, mais pourquoi il y a cité, pourquoi tu te tais, ce genre de choses.
Mais un moine, il est dans la compassion, dans la mansuétude. Un humoriste, il se doit bien sûr de n'avoir aucune mansuétude.
Bah, ça dépend du secteur dans lequel il travaille. Moi, je suis pas dans le secteur de la bienveillance, mais il existe des humoristes.
On fait rarement rire avec la bienveillance.
Oh, mais... si, ça existe. Après, on change de public.
Voilà, exactement. Parce que quand même, plus le rire est intelligemment méchant, plus il est efficace. En fait, comme une arme qu'on fourbit pour la faire briller, je voudrais savoir si ça se travaille, la méchanceté.
La méchanceté sur scène, non, c'est pas moi. Je me suis jamais dit tiens, je vais faire un truc méchant. En fait, les phrases se polissent, oui, pour que produire un effet. Vous pouvez avoir une idée, puis après passer l'idée à une punchline, ça c'est beaucoup de travail malgré tout, et puis on le sait que face aux gens, etc. Mais moi ce qui m'intéressait, c'est pas d'être méchant, mais c'était de dire le truc que peut-être tout le monde pense, qu'il n'osait pas dire, et de le tourner d'une manière où les gens disent, mais c'est quand même, c'est honteux parce qu'on l'a aussi pensé, mais honnêtement on l'aurait jamais dit, alors que pour moi ça reste que des phrases, voilà l'idée.
Bon, Gaspard Proust, quitte à faire du théâtre, autant vivre l'aventure avec l'auteur le plus allumé, le plus féroce et le plus formidablement déstabilisant de tous les auteurs actuels, Sébastien Thierry. 8 fois nommé aux Molières et l'ayant remporté 1 fois, Sébastien Thierry à qui on doit, entre autres, Momo et L'Origine du Monde, Sébastien Thierry qui signe Demain la Revanche, la pièce que vous jouerez prochainement au Théâtre Antoine à Paris. En fait, vous êtes sur scène parce que cette pièce, vous auriez pu l'écrire.
Non, je vais pas dire c'est prétentieux, mais c'est un thème que j'aurais bien aimé
développer,
traiter. Oui, je me dis ah tiens, c'est chouette comment il fait ça, il tourne. C'est un thème qui m'intéressait. Et donc il y avait une vraie résonance avec la thématique. Mais après, je dis ça, je pense que c'est un thème qui va résonner chez beaucoup de gens, parce que les rapports parents-enfants, pour ceux qui ont des enfants et ceux qui ont des parents, ça peut les toucher. Il y a toujours cette part de quelle est la part des parents de notre éducation, à quel point on est libre, est-ce qu'on peut se récupérer tout seul, est-ce qu'on reste un ado chouineur toute sa vie et on réclame aux parents de nous avoir empêchés d'être ceci ou cela. Enfin, c'est une thématique en plus. Et comme les parents veulent en général le bien pour les enfants, mais
malgré
souvent,
eux.
Malgré eux, parce que peut-être qu'ils connaissent pas vraiment leurs enfants. Genre moi, par exemple,
mais j'ai l'impression en fait que les enfants connaissent généralement beaucoup mieux leurs parents que les parents ne connaissent leurs enfants.
On peut avoir des surprises aussi. Je pense qu'on peut avoir des surprises. Je suis pas sûr que... Oui, on voit les parents, on voit comment ils sont, comment ils agissent, on a un recul sur eux. Ouais. Mais ça va... Oui, mais vous avez peut-être pas tort. Vous avez peut-être pas tort.
Bon, en tout cas, Sébastien Thierry n'en a pas fini avec ses obsessions sur le côté toxique des relations parents-enfants, enfants-parents, parce qu'elles infusent presque toutes ses pièces, sauf que là, dans Demain, la revanche, votre arrivée à 5h du matin... chez vos parents, trempé, chargé d'un sac à dos rempli de pierres et totalement amnésique, donc va carrément virer au règlement de compte.
Oui. oui. Comment on peut répondre à ça? Oui, par oui.
Ça démarre comme un règlement de compte.
Ça démarre. Je pense que les gens au début, ils sont secoués, ils comprennent pas, et puis on a envie de savoir ce qui se passe après. Moi, je suis très content parce que c'est une pièce où les régisseurs, les techniciens qui voient nos pauvres répétitions tous les jours s'emmerdent jamais. Donc je me dis, ah, si c'est comme ça, c'est que c'est chouette. Parce que je suis allé leur demander, mais quand il y a des répétitions d'autres pièces, ça vous arrive de vous emmerder? Ah oui, ça arrive. Mais là vraiment, et je sais que c'était pas pour nous faire plaisir. Donc ça, c'est une espèce de truc un peu positif. Parce que c'est vrai que c'est une espèce d'enquête, en fait. C'est que le gamin, il va faire une enquête sur sa vie avec ses parents... Et après, il va la leur faire à l'envers, voilà.
Bon, c'est du théâtre, vous êtes trois sur scène, alors que depuis toujours, vous êtes seul en scène, face au public, Gaspard Proust. Mmh. Donc, ce partage du temps, quand on fait du théâtre, et qu'on est inséré dans une troupe, ce partage du lieu, de la lumière, de l'action, ce partage du public, c'est facile ?
Bah, pour le moment, je peux pas vous dire, on n'a pas encore joué devant un public, donc ça va être intéressant.
Mais, vous avez bien une petite idée quand même, vous voyez que là, soudain, ça circule, vous n'êtes plus seul dans la douche de lumière.
Ouais. Non, mais moi, ça me dérange pas, je suis
ça
très content. Ouais, je suis très content que le texte, c'est d'ailleurs un tiers, hein. Je suis pas le... je suis celui qui fait avancer l'intrigue de la pièce, mais je suis pas le seul. Et puis c'est quand même rassurant d'être sur scène avec papa et maman, quoi. C'est la première fois qu'ils m'emmènent au théâtre comme ça et on joue ensemble. Vous voyez, donc c'est intéressant.
Vos parents.
Mais après l'histoire de la lumière, qui va prendre la lumière, ça. Ça, je m'en fous, hein, sincèrement. Parce que je faisais du seul en scène, parce que c'est tout ce que je savais faire et que. C'était logique. Si c'est mon texte, bah, allez, je vais le défendre. C'est écrit comme ça. Mais
est-ce que jouer au théâtre vous donne envie d'écrire pour le théâtre ?
C'était une des raisons aussi pour lesquelles j'ai accepté, parce que je l'ai dit à Sébastien Thierry en toute transparence, je dis j'ai envie de voir la mécanique, comment ça se transpose, est-ce qu'une pièce est plus forte que ses acteurs ? Donc là c'est lui qui va prendre ce risque, hein, on va voir.
Est-ce qu'une pièce est plus forte que ses acteurs ?
Bah, en fait je pense que c'est le rêve de... logiquement, d'un auteur de théâtre, je pense que ce serait le rêve, oui, c'est que peu importe qui vous mettez, le truc fonctionne, ouais. On va voir ça.
Alors, Gaspard Proust, humoriste, ça fait fonctionnaire du rire, comique, bon, ça fait comique de table, c'est un petit côté grotesque. Mm-hmm. En fait, quel est votre métier ?
Ben, moi, j'aime bien bouffon. Artiste, j'aime pas parce que c'est immérité. Parce que artiste, c'est Rodin, Balzac, Van Gogh, ça c'est des artistes. 90% du reste, c'est des divertisseurs, des petits artisans du petit secteur de la bidouille orale, quoi. Enfin, c'est autre chose.
Les médias aiment bien utiliser le terme trublion.
Après,
moi, je trouve que c'est bondissant,
oui.
Et un peu anecdotique.
Trublion,
mais...
oui, ça ouais. Fait on ouvre une boîte, il sort.
Voilà.
Et...
Donc,
mais c'est
bouffon...
pas très important. Bouffon, c'est pas mal, parce que bouffon, ça me rappelle les bouquins, enfin, c'est les termes de Dostoïevski, quoi. Il faisait le bouffon. bouffon, ça fait, c'est un terme modernisé de fou du roi, quoi, pourquoi pas.
Voilà. Est-ce qu'enfant, déjà, vous maniez l'ironie en repérant les travers des adultes?
Alors, manier l'ironie, j'étais relativement doué pour faire chier ma mère, ça je dois avouer. Alors, je sais pas si ça rentre dans le secteur de l'ironie.
Oui, il y a beaucoup de gosses comme ça qui ne deviennent pas forcément humoristes.
Oui, pas forcément, mais c'est vrai que j'étais un petit emmerdeur quand même. Mais non, moi je me suis révélé à ce niveau-là assez tard. Moi j'ai commencé à vivre et à me connaître quand j'ai quitté mes parents et que je me suis retrouvé un peu seul. Avant, c'était pas possible.
Bon, jusqu'à l'âge de 6 ans, Gaspard Proust.
J'étais un enfant timide, introverti, le truc classique, quoi.
Ouais. Jusqu'à l'âge de 6 ans, vous ne parliez pas français, puisque vous avez grandi en Slovénie, votre maman est slovène, et puis ensuite, vous êtes allé en Algérie. Algérie que vous avez quitté en 94 à 17 ans. Bon, la Slovénie et l'Algérie sont deux pays qui ont connu la guerre quand vous étiez ado. Des guerres sournoises avec des attentats, des règlements de compte. Ça façonne forcément une certaine vision du monde et du genre humain. Ça, d'avoir vécu dans des pays qui ont connu chacun la guerre.
Oui, forcément, parce que ça vous marque psychologiquement, et puis ça, puis vous rendez compte aussi que l'homme, il est vraiment capable de choses inimaginables, et ça peut être votre voisin, en fait. C'est ça qui est. On s'étonne toujours, ah, mais comment lui, comment devenir un monstre ? Enfin, c'est assez banal, quoi. On est toujours. Donc, du coup, moi, ça me surprend plus tellement quand j'entends ces choses-là aux infos.
Et ça, on l'entend justement dans vos textes. Bon, la guerre la plus sournoise, vous dites que c'était en Algérie où travaillait votre
père. Oui, c'est en Algérie parce que c'était pas deux fronts qui s'affrontent. C'est une guerre civile larvée, quoi. Vous savez jamais d'où peut partir le coup, donc ça vous met, c'est normal, dans une ambiance d'espèce de stress permanent. Vous passez votre temps à regarder à gauche, à droite, et puis. Oui, ça c'est pas agréable. Il faut imaginer comme si, bon, quand il y a eu les attentats à Paris, c'était une ambiance permanente, vous avez un attentat tous les trois jours. Je dirais, à un moment, vous devenez un peu cinglé, quoi.
C'est en Algérie que vous avez appris à parler français. Et vous dites que, en fait, l'Algérie, c'est beaucoup plus que juste de l'autre côté de la Méditerranée. C'est tout un monde auquel vous vous reconnectez, par exemple, quand vous attrapez un bouquin de Camus. Elle vous a marqué, l'Algérie?
Oui, beaucoup plus que j'ai voulu le croire à une époque, parce que j'étais enfant, adolescent. C'est quand même un pays où à l'époque, nous, on sortait pas. Je veux dire, en France, les gens, ils allaient au café, je veux dire, ils sortaient en boîte, etc. Nous, on restait un peu dans le genre du lycée, il y avait quelques soirées. Bah, puisque moi, j'étais introverti, j'étais un peu exclu de tout ça, et puis je n'avais pas spécialement envie non plus. Enfin, quand on est un contemplatif, forcément, le pays vous marque peut-être plus. Du coup, les résonances avec Camus étaient assez évidentes. Mais moi, j'ai toujours aimé revenir en Europe. Parce que moi, de cœur, j'aime beaucoup la montagne. Donc pour moi, la Slovénie, c'était quand même mes vacances. C'était le moment où je partais.
C'était la jeunesse de votre histoire.
Voilà, et moi, j'aime bien le froid. J'aime bien quand il y a du brouillard en hiver. J'aime bien quand les champs sont gelés. Et les pays comme l'Algérie, où il fait très doux vivre, c'est très agréable. Moi, je suis pas un méditerranéen de base, vous voyez. Mais la nostalgie est revenue après. Une fois qu'on est parti, ça vous remonte et vous dites, ah, c'était quand même chouette, et le désert, etc., etc. Ben, en fait, on peut pas. L'enfance, c'est l'enfance. Ça revient tôt ou tard, quoi.
Mais alors, la France, comment vous est-elle apparue quand vous avez quitté l'Algérie en 94, justement, à cause des attentats?
Alors, quand je me suis retrouvé au lycée français, là, à Aix-en-Provence, j'ai très vite compris que les Français ne comprenaient strictement rien à l'Algérie. C'est-à-dire qu'ils avaient une image extrêmement déformée, qu'en fait, ils parlaient de ceux qui étaient en France, mais pas de ceux qui étaient de l'autre côté. Et ils avaient une vision, mais les Algériens aussi, de l'autre côté. Hein, c'est vraiment des rapports complexes.
Mais bien,
bonne chance pour.
Bien qu'à l'époque, vous soyez très introverti, vous tentiez de leur expliquer ce que vous aviez traversé, vécu, constaté ou pas?
Moi, je m'acharne pas à convaincre les gens. J'aime pas ça. Parce que j'aime pas qu'on s'acharne à essayer de me convaincre. Je suis assez honnête à ce niveau-là. Moi, j'aime pas quand quelqu'un me bourre le mou, et puis à l'inverse, moi, je vais pas. Je crois beaucoup à l'autonomie des gens et au fait qu'ils vont rencontrer ce qu'ils doivent rencontrer et qu'il faut les laisser vivre et aller. Parce que de toute façon, on comprend les choses que quand on les vit de manière personnelle. On a beau vous expliquer 36 000 fois un truc, bon. Faites quoi, moi, je suis comme ça.
Gaspard Proust, la France, en fait, c'est le pays qui culturellement vous a fait.
Oui, puisque c'est le pays dans lequel j'essaye de réfléchir et dans lequel, quand je pense, je pense en français. Quand j'écris, j'écris en français. La culture qui m'a été donnée, c'est de la culture française. Hein, c'est pas la culture algérienne, ni la culture slovène, ni la culture suisse par la suite. Enfin, c'est vraiment, c'est le creuset francophone français. Donc c'est là où je me sens le plus proche.
Alors, effectivement, vous aimez ce pays, la France, pays tourmenté, idéaliste, où tout est politique, où tout fait polémique. Je sais que, vous aimez sa culture, sa diversité. Mais alors, j'ai lu cette phrase de vous, terrible. La France qui s'incline devant tout est un pays qui se méprise.
Oui, c'est normal. C'est-à-dire que si vous vous respectez pas, vous pouvez pas vous faire respecter. C'est-à-dire vous acceptez tout pour être aimé, donc à ce moment-là, vous faites n'importe quoi. Et je trouve triste que un pays comme le vôtre s'excuse de trucs d'il y a 200 ans, c'est lunaire quoi, pour moi.
C'est drôle de dire un pays comme le vôtre, alors que la France culturellement vous a fait, vous y vivez et vous aimez ce pays, mais vous me dites un pays comme le vôtre.
Oui, parce que je garde une petite distance, parce que autrement j'aurais demandé la nationalité française,
etc. Voilà, vous êtes slovéno-suisse et vous ne voyez pas l'intérêt de demander la nationalité française, même si vous payez vos impôts en France. Parce que être français aujourd'hui ne signifie plus du tout ce qui vous faisait rêver quand vous étiez môme. Et quand on vous parlait par exemple de Victor Hugo, de Pascal, de Baudelaire, de Rodin, de Le Nôtre, de Debussy, de De Gaulle, vous trouvez que ce souffle-là s'est éteint?
Mais non, il s'est pas éteint. Il y a des choses qui vont rester. C'est des trucs quand même un peu éternels. Je dirais, vous faites un tour au musée d'Orsay.
Mais là, c'est passé. Moi, je vous parle du présent.
Suisse et Slovène, c'est déjà beaucoup, hein. Faut quand même charger la barque, la Trinité. Non, c'est pas. Et peut-être qu'il y a. Je trouve que cette petite distance, elle me protège tant bien que mal. C'est pas. Moi, j'aime bien l'idée de vous dire votre pays. J'aime bien ça. Oui, parce que je garde du coup.
Oui, alors vous nous avez dit métier bouffon et observateur.
C'est confortable, mais on a aussi le droit à quelque chose de confortable parfois dans la vie.
Mais alors donc vous êtes un apatride qui observe.
Je suis totalement apatride. Oui, j'ai peut-être cette espèce de peur de l'engagement pour quoi que ce soit, donc forcément, logiquement, je devrais peut-être demander la nationalité française, mais j'irai certainement pas au bout de cette idée-là.
Bon. La Suisse sur votre passeport, c'est parce que vous avez fait HEC à Lausanne et vous avez tenté une première vie, en fait très éloignée de ce que vous êtes, une première vie tapissée d'obligations et de portefeuilles d'actions. Et alors là, il y a des choses qu'il faut remettre en perspective parce qu'il y a eu plein de fantasmes autour de ça, la première vie de Gaspard Proust.
Oui, les gens pensaient que j'érais un fonds, que j'étais richissime et que tout ça, alors que concrètement c'était beaucoup plus moins glamour que ça. En sortant d'HEC, c'est soit vous travaillez dans l'audit et c'est beaucoup beaucoup de travail pour lire des bilans comptables, soit vous allez pantoufler un peu, vous allez dans une banque privée et là, on vous donne un portefeuille de petits clients et puis vous gérez ça, donc vous êtes en fait une sorte de concierge de luxe qui est plutôt bien payé, c'est pas dingue non plus, mais c'est pour le Suisse plutôt bien payé.
Voilà, alors...
Et donc voilà, mais c'était juste, comme les études HEC m'intéressaient pas spécialement, que la vie professionnelle m'intéressait pas spécialement non plus, autant prendre un poste tranquille, vous voyez, et pas si mal payé pour pouvoir aller skier le week-end, c'est tout.
Bon,
c'est très pragmatique comme choix, mais ça m'a jamais passionné. Donc moi, quand on me dit « Ah, votre ancienne vie de banquier », je dis « Ah bon ?» Ah oui, ah, c'est vrai qu'effectivement, je me levais à 9h, entre 9h du matin et 17h, effectivement, j'étais dans un bureau, oui, c'est vrai.
Gaspard Proust, on l'évoquait... À l'instant, cette première vie qui fut la vôtre en Suisse. Bon, une fois pour toutes, on va tordre le cou à la légende qui vous précède. Hein. C'est pas parce qu'on travaille dans une banque qu'on est banquier, au sens où les gens le fantasment. Oui. D'ailleurs, Arlette Laguiller a travaillé toute sa vie au Crédit Lyonnais et elle n'était pas banquière. Donc, franchement,
compromission de la dame.
Non, mais insensé. Ça vous a fait sourire ou ça vous a agacé quand les médias donc, on parlait de cette première vie de banquier en Suisse. Vous êtes dit décidément, ils sont paresseux, les journalistes.
À l'époque, il y a des petites choses qui m'agaçaient. Et puis, vous savez, je barbote un peu dans ce milieu dans quelques temps. Et je vais vous faire confidence terrible, je n'attends plus rien des médias. Un journaliste, il journalise. Et avec ses petits moyens, avec ses petits défauts, avec ses petites idées. Et il faut le laisser vivre. Voilà. il se fait plaisir. S'il veut raconter n'importe quoi, parce qu'il est un peu paresseux pour... Parce que je pensais, là j'étais très naïf, je pensais que le monde en général, et les journalistes en particulier, cherchaient la vérité. Or, la vérité ne les intéresse pas. La vérité, c'est chiant.
C'est vous qui la cherchez, la vérité.
Moi, oui, évidemment. Avec mes petits moyens aussi. Mais, ah oui, ça, c'est une chose qui m'intéresse. Oui, la vérité, le... Voilà, la sève pure, le truc, oui. Mais journaliste, il est pas... Ça reste un être humain, quoi. Moi aussi, hein, mais... Donc aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, amis journalistes, fais-toi plaisir. Voilà.
Bon, je continue de dérouler le fil. Pendant 2 ans et demi, donc, vous avez géré les fortunes des autres et vous vous êtes retrouvé chez le psy.
Ah oui, oui, parce que forcément, quand on se dit que tout est plié à 23 ans et que donc c'est normal de se faire chier jusqu'à sa mort, et ben là, soit on accepte et puis on peut peut-être mener cette vie-là. Alors moi, j'ai un problème chez moi, c'est le corps. C'est que le corps, quand il n'est pas d'accord avec ce qu'il y a dans la tête...
Il se fâche.
Il se fâche. Et donc, j'ai fait ma petite dépression des 23 ans. Et du coup, j'ai commencé à chercher vraiment... ce qui pouvait m'intéresser, ce qui pouvait éventuellement me faire avancer. C'était pas un chemin facile, hein, franchement. Quand je suis arrivé à Paris et tout, c'était pas évident, mais voilà. J'ai quand même réussi à faire 2-3 trucs dont j'ai pas trop honte.
Mais alors, Gaspard Proust, le moment de rupture, celui où on envoie tout promener devant ses proches qui sûrement sont consternés, ce moment où on saute du train en marche, mais en se sentant incroyablement vivant, vous vous en souvenez?
Non, parce que c'est par petits pas et puis par petits renoncements. Moi, j'ai eu besoin d'aller quasiment jusqu'au RMI pour voir comment je pouvais gérer ça. J'ai eu besoin de me mettre en plus ou moins en danger pour. Mais c'est un chemin dont vous connaissez pas forcément la direction. Mais vous. Après, quand c'est pour vous, c'est pour vous, quoi.
Au départ, vous avez écrit des textes que vous avez proposés à d'autres. Mais vous ne vouliez pas monter sur scène.
Au départ, j'écrivais des petits trucs. Et puis, je suis allé à un cours de théâtre. Et dans ce cours de théâtre, on m'a tendu... alors, tout le monde faisait des scènes, de l'avare, de trucs, d'auteurs de théâtre. Et moi, très vite, je suis venu avec mon propre texte, parce que je n'ai jamais ambitionné d'être comédien.
Mais vous dites, j'écrivais des... Il y avait quoi dans ces petits trucs?
Mais non, c'était ça tournait déjà plus drôle. Vers l'ironie, oui, ça tournait quand même assez rapidement là-dessus. J'avais quand même envie de vaguement essayer de me faire rire tout seul déjà. Voilà, ou de sortir des trucs que je trouvais. C'est tout.
Alors, finalement, vous avez fait le service après-vente et vous êtes monté sur scène. Or, vous dites, il faut trouver sa voix. Sa voix, bien sûr, avec un X. Il faut trouver son clown, il faut trouver son monstre. Très vite, vous avez osé être sur scène avec la noirceur qu'on vous connaît.
Ça aussi, ça s'est fait par petite phase, parce qu'au départ, le spectacle, c'est une moitié de chanson et le reste de texte. Et moi, j'assumais pas du tout. Je dis, mais c'est impossible de tenir une heure sur scène juste en racontant quelque chose. Ça n'a pas de sens.
Une moitié de chanson.
Je faisais des petites chansons. En fait, c'était plus facile, paradoxalement, au début, d'écrire des chansons, ce que j'ai fait, des espèces de... Oui, oui. Ah oui, je me souviens des accords, de rien du tout. Mais j'ai commencé comme ça. C'était un truc qui s'appelait un petit théâtre s'appelle La Petite Loge, qui existe toujours à Paris. Et donc, au début, les gens étaient un peu désarçonnés. Ça marchait. J'ai même plutôt des mauvaises critiques. Et les gens pensent que, voilà, on saute du train en une nuit, et puis boum, ça se passe pas comme ça. Enfin, c'est un travail, c'est un chemin, c'est chiant, c'est difficile. En tout cas pour moi, ça a été comme ça, mais je suis heureux que du coup, ça vous apprend aussi beaucoup de choses. Mais voilà.
Donc il y a un moment où vous avez écarté définitivement les chansons pour ne garder que les textes.
Et finalement c'était un prétexte pour pouvoir monter en texte.
Alors monter en texte, justement. Oser dans la noirceur, dans l'ironie. Est-ce qu'au départ, ça faisait peur au directeur des petites salles ou bien ils ont vite compris que votre sillon, il était neuf et très intéressant, comme celui de Blanche Gardin?
Il y a les gens qui ont compris, qui étaient intelligents, comme Ruquier, et puis il y en a d'autres qui m'ont expliqué dès le départ qu'il fallait plus sourire. Bon.
On vous a dit ça?
Ah oui, on m'a dit ça, oui, non. Il y a un grand producteur parisien qui m'a dit, non, tu sais, il faut que tu installes une connivence avec le public, que tu sois plus sympathique, comme ça les gens, en gros, ils ont envie de partir en vacances avec toi. Je dis, bon, je crois qu'on s'est mal compris. Si c'est ça, la récompense de ce métier, je crois que je vais retourner à la banque. Et
votre signature, c'est exactement l'inverse de ça. Et ça
c'est
fonctionne
exactement
furieusement.
L'inverse. Et puis le meilleur compliment que j'ai eu, c'est en fait, on adhère à ce que tu fais, on arrive à rentrer dans le truc parce qu'au fond, on sent que t'es pas un enculé ou vraiment un connard. Il y a un truc comme ça. Alors peut-être que tout le monde le ressent pas comme ça, mais ça, je dis, ah ben voilà, toi, tu as absolument tout compris. Parce que je comprends pas très bien où est le problème, que ce soit dans l'écriture, dans la création artistique ou sur une scène, de dire tout. C'est des mots, c'est des phrases, c'est un cadre qui est fait pour ça. Si on commence à s'empêcher là, ben à ce moment-là, il faut arrêter de parler de liberté du matin au soir.
Bah, d'ailleurs, dans ce pays de la bien-pensance, hein, dans ce pays où tout fait polémique, vous dites, c'est plus intéressant de jouer celui qu'on prend pour un connard de droite qu'un gentil de gauche.
Je vois pas l'intérêt. Et puis bon, il faut être honnête, il y avait plus de places disponibles à droite. Comme c'est bizarre.
Parce que c'est plus courageux aussi.
Non, mais je suis monté sur scène pour dire la faim dans le monde, c'est pas bien. Bah, je suis d'accord, évidemment. Qui va dire, ou même, ah, la planète, elle est polluée. Oui, elle est polluée. Si vous arrachez des applaudissements là-dessus, bah, pour moi, c'est la banalité des banalités, quoi. Ah, il faut pas tuer d'autres hommes. Ben oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, c'est même inquiétant que quelqu'un aille sur scène pour dire ça, parce que j'ai envie de dire, mais ça veut dire qu'en coulisses, il pense l'inverse.
Gaspard Proust, vous avez déjà changé de vie une fois. Vous pourriez à nouveau changer de vie radicalement.
Ah, c'est la tentation, comme
c'est
disait
Juppé.
C'est
la tentation.
La tentation de Venise, hein, bien sûr.
L'écriture.
Mais c'est une fuite. Je sais peut-être.
L'écriture,
je sais pas,
uniquement d'une manière plus radicale.
Je sais
radicale.
Pas. Non,
vous
mais faut avoir des choses à dire. Ouais, je parle déjà beaucoup là. Je parle chez vous. J'ai fait 3 interviews dans le journal. Je m'auto-soule déjà. Donc j'en sais rien. On verra. Je sais pas moi. Je sais pas. On sait pas. D'ailleurs, d'une manière générale, vaut mieux. C'est quoi? C'est vivre le moment présent. Toutes ces conneries là. C'est ça.
Mais que rajouter, par exemple, justement, il faut trouver des choses à dire, dites-vous, quand on est fou de l'œuvre de Dostoïevski ou...
Ah bah alors, rien, hein, quand je...
Alors, qu'est-ce que rajouter
a... Ah bah il n'y a rien à rajouter, il y a à répéter en faisant illusion que c'est différent, c'est tout.
Bon, en fait, je vais vous dire un truc, je ne vais pas vous regarder dans les yeux en le disant, ce garçon est un petit peu trop intelligent pour être heureux. Ça pose un problème, finalement, non. L'intelligence.
Non, je ne suis pas spécialement intelligent. Non.
Il va me dire qu'il est lucide.
Pas. Vaguement, mais vous savez, j'aime bien me tromper, parce que du coup, on peut avoir des bonnes surprises aussi.
Vous vous êtes trompé, par exemple, sur quel sujet?
Ah ben, sur plein de trucs, sur
la dernière fois, vous vous êtes dit, ah ouais, quand même, ah mince, je ne croyais pas, mais si, et c'est bien.
Ah bah la dernière fois, oui. Ah bah c'est avec ma partenaire de jeu, Brigitte Catillon. Quand on s'est rencontrés, moi je me suis dit, putain, j'ai rien à lui dire. Elle a dû se dire, elle a rien à se dire, vraiment. Pff. Alors là, on va galérer. Et au bout de 1 mois et demi, j'ai du plaisir à la voir. On s'entend très bien. C'est vraiment, je suis très 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 heureux de cette rencontre. Alors je vais être honnête, au début, j'ai dit, pff, ça va être la galère. Hein. Donc, si elle nous écoute, je pense que ça va la faire rire. Mais voilà, ça c'est... Et puis on arrive toujours avec ces petits paquets de préjugés. Vous voyez, moi aussi, on m'en colle plein. Et puis après, les gens sont surpris. Ah, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas trop un connard. Hein. C'est comme s'ils étaient déçus, presque.
Gaspard Proust, sincèrement, guide de haute montagne ou compositeur de musique classique, ce sont des vies, des destins qui vous auraient plu.
Oui, guide de montagne, impossible, j'ai pas le niveau. Musique, j'ai commencé trop tard. Non, pas compositeur, mais déjà chef d'orchestre, j'ai souvent dit, mais ça c'est un truc, parce qu'on passe son temps à baigner voilà, là-dedans. Ce que j'ai fait durant une époque, et oui, ça c'est des... Oui.
Comme vous ne faites jamais les choses de manière tiède, vous avez quitté Paris pour aller vivre à la montagne. Donc, quand vous n'êtes pas sur scène ou devant un micro, ben vous êtes dans votre bulle, dans les montagnes de Haute-Savoie, dans un paysage de rochers et de cimes enneigées. D'ailleurs, vous nous avez dit tout à l'heure que vous adorez quand il fait froid, quand le ciel est chargé de brume.
Ah, ouais,
donc,
ouais.
Vous êtes en Haute-Savoie avec le silence qui vous nourrit et le temps long, surtout. Ce temps long qu'on n'a jamais dans les villes. Donc, vous n'êtes en paix que dans la nature?
Oh bah, y a les voitures électriques, elles se rechargent aux bornes. Moi, je me recharge à ça. C'est vraiment, oui. Mais ça a toujours été le cas et Et pour moi, rien ne remplace ce rapport-là.
Est-ce que vous avez choisi la vallée du Mont-Blanc parce qu'elle vous rappelle le Triglav, le plus haut massif montagneux de la Slovénie enfance?
C'est non. Par hasard que je suis revenu là-bas, parce que ça s'est fait comme ça. Mais non, puis c'est des montagnes très différentes. La vallée de Chamonix, c'est abrupte, c'est oui. Un peu moins doux que les montagnes slovènes qui, c'est plus dolomitique, c'est plus blanc, oui, c'est différent.
Et est-ce que sur vos terres de Haute-Savoie, vous acceptez vos copains parisiens? Ou bien ils ont la flemme de venir jusqu'à vous parce que ça se mérite?
Non, c'est très drôle parce que quand ils viennent tout excités, ils ont envie de faire 500 000 trucs, et puis une fois qu'ils sont assis sur le canapé, ils s'endorment. C'est-à-dire qu'ils sont, on voit qu'ils lâchent les batteries et ils se calment. Ils perdent tout de suite, je dirais, 15 décibels en termes de volume sonore. Ouais. C'est très marrant.
Et vous aussi ou pas? Vous êtes très actif là-bas?
Ah oui, moi je fais tout le temps des trucs là-bas, mais j'ai de la
très
chance.
Très sportif.
On va pas se mentir, quand on est en montagne.
C'est qu'on aime. Oui, mais il y a aussi ceux qui sont contemplatifs, qui sont pas, pour la beauté du paysage.
C'est pas incompatible.
Ouais.
C'est pas incompatible.
Bon, alors, votre autre passion, Gaspard Proust, c'est la musique classique. Lorsqu'à 30 ans, finalement, vous décidez d'une manière radicale de changer de vie, vous prenez une année de réflexion avant de vous lancer, et il paraît que, j'ai envie de dire, dans ce no man's land temporel, vous avez écouté de la musique classique en continu. Qu'est-ce que vous écoutiez?
Ah, je pense sincèrement que j'ai tout écouté. Je passais, est-ce que j'étais... au chômage, je savais pas trop quoi faire, je cherchais vaguement du boulot, et en même temps, je pense que j'ai dû écouter 12 heures de musique classique par jour. Que la musique classique, parce que j'avais un pote qui travaillait dans un disquaire, c'est encore à l'époque des CD, et c'était adorable parce que je dis, écoute, qu'est-ce qu'il faut écouter? Qu'est-ce que t'as comme disque? Et à l'époque, ils faisaient beaucoup de rééditions, de vieux enregistrements, des choses comme ça. Et il y avait encore des cabines où on pouvait écouter, en solo. Et donc du coup, je m'étais fait une discothèque à ce moment-là. Et
alors, les compositeurs classiques qui vous chavirent le plus?
Après, c'est toujours les mêmes. On va dire Bach, Wagner, Handel. J'écoute beaucoup ouais, Handel en ce moment parce que j'aime bien, parce que je me suis mis au piano. Donc j'adore. En fait, moi, la forme préférée, c'est la fugue. C'est tout ce qui est.
C'est très mathématique, hein. On trouve le matheux dans la construction.
Pas du tout. Je suis pas du tout un matheux, mais j'aime beaucoup la construction et le fait de faire chanter plusieurs voix, enfin c'est la polyphonie en fait, c'est ça qui m'attire. Haydn évidemment, j'avais oublié, et puis Mahler, on va dire c'est vraiment les quatre, et Mozart sur quelques opéras.
Alors vous êtes mis au piano assez tardivement.
Et Beethoven. Après je vais tous les faire en fait parce que j'ai pas une allergie particulière.
Non, vous n'aimez pas Chopin et vous n'aimez pas Vivaldi.
Ouais, Chopin, franchement, ça me...
C'est-à-dire qu'il y a... on a l'impression que la pub à la télé est née tapissée par... voilà, Chopin.
Non, mais c'est toujours...
Ou alors Vivaldi, les quatre saisons.
Moi, je vois toujours un Polonais qui souffre sur son piano. Quoi. J'y peux rien. T'es un peu mièvre, c'est un peu délicat. Alors, on imagine dans un salon, vous savez bien, il fait ses petits effets. Moi, je... Liszt... Pour moi, c'est... Alors que j'étais à l'inverse, j'ai commencé par Chopin, j'aimais beaucoup ses balades, et après je suis passé... Et Liszt, je comprenais pas qu'on pouvait aimer ça, j'ai dit 1000 fois, enfin peu importe. Et Liszt, voilà. Mais Chopin, je n'y arrive pas. Et pourtant, je me force, hein. Quand je fais mes trajets en bagnole, je me dis, vas-y, réécoute les scherzos, réécoute ça, et...
Et non.
Et je m'emmerde.
On va dire que, voilà... C'est le seul compositeur, effectivement, qui vous met dans cet état.
J'ai rien contre lui, hein. J'ai rien, vraiment.
Le pauvre. Il y a 5 ans, Gaspard Proust, Sony Music a fait appel à vous pour présenter, de façon décomplexée comme on peut l'imaginer, des concerts de musique classique dont, paraît-il, alors ça c'est Sony Music qui le dit, vous allez me dire si c'est vrai, vous aviez choisi 80% du programme.
Oui.
N'est-ce pas? Voilà, justement avec Brahms, Bach, Wagner, Ravel, voilà. Vous avez donc... approcher un monde professionnel qui n'est pas le vôtre, même si vous êtes un mélomane. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette aventure-là, qui a quand même duré un certain temps? C'était inattendu de voir...
J'ai rencontré un milieu... idéalement, je pense que c'est celui dont je me sens le plus proche, parce que j'ai rencontré... alors peut-être que je me fais des idées aussi, mais je les ai quand même côtoyés. Ou alors j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance, mais des gens extrêmement... une humilité hallucinante, mais qui est proportionnelle en fait au travail qui est investi par ces gens-là. C'est-à-dire qu'on peut pas peut pas faire semblant de jouer au piano, on peut pas faire semblant de jouer au violon, on peut pas faire semblant de jouer au violoncelle. C'est-à-dire que si on fait semblant, on voit qu'on est mauvais. Dans le one-man show, dans le cinéma, vous pouvez faire un effet. Vous pouvez cabotiner plus ou moins. Alors, je dis pas des très, très grands acteurs, mais même au théâtre, pareil. Enfin, quand je vois comment on a bossé, que ce soit Catillon et Russo et les autres, enfin, c'est vraiment un boulot, les répètes, etc. Mais je dirais plutôt le one-man show, le cinéma. Je vais dire une hérésie qui va faire hurler, mais Catherine Deneuve, vous la mettez devant une caméra, vous n'avez pas besoin de la faire parler. C'est très injuste, mais c'est comme ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Enfin, je veux dire, voilà, vous la, Marlène Jobert dans, je sais pas, c'était quoi, avec le film avec Jean-Yann, Nous ne vivrons pas ensemble. Mais, c'est Depardieu sur certaines scènes. Voilà, ces gens-là, ils ont rien à faire. Ils sont là, on a envie de les regarder, même s'ils disent rien.
Alors, dans le milieu du cinéma, contrairement justement à celui de la musique classique et des musiciens, rien ne semble vous impressionner, même si vous avez excellé, vous, dans les rôles.
Mais non,
Par exemple, j'étais mauvais. Alors là, je vous interdis, c'est pas vous qui vous jugez.
Mais je vous explique toute ma film. Si, je peux être très lucide sur moi. J'ai fait un premier film qui m'a demandé 3 ans. Alors ça, c'est le truc du cinéma, c'est qu'ils viennent capter l'innocence que vous dégagez malgré vous, et ça fait un bon film. Quand vous captez la fraîcheur de quelqu'un...
Le film n'était pas mauvais du tout, non?
Oui, non, il n'était pas mauvais. Bon. Mais voilà, et là, je pense que je suis arrivé un peu en naïf, dans une espèce d'abandon, et là, je pense vous donner vraiment quelque chose. Je me suis recroquevillé sur les autres, parce que c'était pas... Je me suis dit, c'est très bizarre, le cinéma, vous passez votre temps à attendre,
et puis
un moment, vous
faites
faire un sprint. Oui.
Par exemple, toujours signé par BBD.
Je renie tous mes films. Allez,
là, vous n'étiez pas bon.
Pas grand intérêt.
Étonnant. Bon, et alors, le cinéma, mais alors, en tant que spectateur, il paraît que vous vous ennuyez assez vite en tant que spectateur devant.
Très peu au cinéma. Ouais,
c'est vrai.
Ouais.
Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que un film que majoritairement les gens aiment, vous vous ennuyez?
Non, mais je sais pas, citez-moi. J'ai beaucoup aimé,
par exemple,
La La Land, vous voyez, alors qu'a priori, c'est vraiment un truc que j'aurais dû m'emmerder. Et je suis complètement... Alors, il y a la musique qui fait que ça aide, et puis souvent, vous voyez... Mais je sais pas. Non, je suis pas. Est-ce qu'on a encore le droit de pas être cinéphile dans ce pays?
On a le droit. Dans cette émission, vous avez le droit. Bon, Gaspard Proust. Après la pièce de Sébastien Thierry et de Malarvanche que vous jouerez donc à l'automne sur la scène du Théâtre Antoine à Paris, est-ce que enfin vous vous attellerez à terminer le roman que vous avez commencé à écrire il y a 10 ans?
Oh, je l'ai pas commencé.
Mais il est dans votre tête alors.
Oui, on va dire.
Il est dans votre tête où il y a des feuilles volantes comme ça, dans des tiroirs, éparpillées. Il faut furieusement aimer un sujet pour s'y tenir. Oui, donc c'est toujours le même thème depuis 10 ans. Au moins, le sujet
non,
est
non, alors
arrêté.
J'ai bien fait de pas m'y mettre avant parce que je vois éventuellement si tout va bien la thématique que je ne vous donnerai évidemment pas, qui pourrait m'intéresser.
Mais je ne vous la demanderai pas parce que je sais que vous ne me répondrez pas. Mais, en tout cas, il mûrit, on va dire, que les choses décantent.
Voilà.
Les choses décantent.
Ça mûrit.
Non, mais ne pas terminer, sincèrement, sérieusement, ne pas terminer le roman qu'on rêve d'écrire.
Mais non,
c'est un projet.
Fout.
Non, mais c'est un projet qui peut remplir une vie. Vous cherchez vos limites, vous les avez pas encore trouvées.
Mais c'est pas important, un livre. L'important, c'est la vie. Je veux dire, quand. Il y a trop de livres qui sont écrits, de toute façon.
Vous savez qu'on peut dire ça aussi par une haute conscience de soi et de son talent, une haute estime de soi.
Ah
ça
bon,
peut aussi être le contraire de l'humilité.
Non, mais c'est écrire un livre, je sais pas, pour laisser une trace à qui, pour se faire, je sais pas, parce qu'on a envie. Je pense qu'il faut écrire un livre parce qu'on a envie d'écrire un livre, qu'on a envie de traiter un sujet.
Quand vous avez commencé il y a 10 ans, quand vous avez eu l'idée de ce livre, c'était alors pour quelle raison?
Mais j'ai pas, là, vous me parlez d'un truc que je ne connais pas. J'ai pas eu l'idée précise d'un livre. Je dis peut-être que j'écris un livre, mais concrètement, si je commence à publier tout ce que je fais sur scène, vous avez 2 livres. Donc j'ai déjà fait un livre.
Bon, on va dire ça. Allez, Gaspard Proust, pour cette pièce qui va, donc demain la revanche, qui va interpeller autant ceux qui ont des problèmes avec leurs enfants qu'avec leurs parents, je voudrais qu'on fasse un petit signe à Daniel Russo, qui est remplacé au pied levé par Jean Barnet, excellent lui aussi, mais Daniel Russo, prodigieux comédien de théâtre, qui a eu un petit souci de santé et à qui on souhaite vraiment un rétablissement très très rapide.
Rétablis-toi, mais ça fait quand même chier, Daniel, hein? Sérieux?
Mais je trouve que c'est la plus magnifique déclaration d'amitié qu'on pouvait attendre. Voilà.
Ah bah voilà.
Ça fait chier, Daniel. Alors, vite debout. Bon, merci infiniment, Gaspard Proust. Et cette conversation est à réécouter en podcast sur le site d'Europe1.fr pendant qu'il attrape son casque de moto. Il a pas mis sa culotte tyrolienne pour venir, mais je vois quand même les beaux mollets affûtés parce qu'il est en short. Merci infiniment, Gaspard.
Merci
à
vous. À
très vite au Théâtre Antoine.
C'est ça.
À Paris.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. 13h, 14h, Isabelle Morizet.